Nous, on a choisi la banque
qui finance les petits projets comme les grands.
Alors, on a une grande nouvelle à vous annoncer.
Ça va nous changer la vie.
Mais on y réfléchit depuis longtemps.
Alors, on a vu Claire.
Notre conseillère de la Banque Postale, elle nous a dit, pas de souci, on peut financer votre projet.
On va acheter une voiture.
À la Banque Postale, nous avons compris qu'il n'y a pas de petits ou de grands projets. Juste vos projets. Profitez de notre offre spéciale sur les prêts personnels auto, travaux ou projets valables jusqu'au 1er juin 2013. Renseignez-vous en bureau de poste ou au 3639, 15 centimes d'euro TTC la minute.
La Banque Postale.
Banque.
Et citoyenne.
Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit exclusif du prêteur.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand est de retour de Poitiers pour un nouveau rendez-vous au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Il y a nettement moins de monde aujourd'hui dans le studio. L'émission que je vous propose aujourd'hui va susciter un écho personnel chez des milliers de nos auditeurs. Durant l'occupation, les nazis ont tué un quart de la population juive en France. Question, qu'est-il advenu des trois autres quarts? Eh bien, 75% des juifs alors présents dans l'Hexagone et même 90% si l'on fait référence aux personnes de nationalité française ont échappé à la Shoah. Pour vous donner un élément de comparaison, ils n'ont été que 55% à survivre en Belgique et seulement 20% aux Pays-Bas. Il s'agit donc bien d'une particularité nationale de ce que certains ont appelé l'énigme française.
D'ailleurs, un livre épais vient de paraître sur la question et on le doit à Jacques Semelin.
Oui, Jacques Semelin, professeur à Sciences Po et directeur de recherche au CNRS. Il publie en coédition chez Les Arènes et Le Seuil Persécution et entraide dans la France occupée, comment 75% des juifs en France ont échappé à la mort, un bel ouvrage qui va servir de socle à une émission que j'ai souhaité riche des témoignages de survivants et vous allez entendre ces grands témoins, notamment Robert Badinter.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Voici donc un ouvrage important de ceux qui font date. Du reste, il fait déjà beaucoup parler de lui. Jacques Semelin a consacré plusieurs années de sa vie à réunir et recueillir les grands témoignages dont son livre est la synthèse et il avance à titre de préambule ce constat que l'on a souvent eu tendance à négliger. Parmi les Juifs se trouvant en France pendant l'occupation, les persécutions nazies auront fait près de 80 000 victimes, dont plus de 11 000 enfants. Or, au total, ces Juifs présents en France avoisinaient alors les 330 000 personnes. Ce qui veut dire que dans notre pays, 3 Juifs sur 4 ont échappé à la Shoah. Et comme je le disais à l'instant, 9 sur 10 si l'on ne tenait compte que des Français. Dans un pays occupé dès juin 1940, entièrement contrôlé par les nazis à partir de novembre 1942, et alors que l'occupant, soutenu dans sa politique meurtrière par le régime du maréchal Pétain, extermine des juifs de toute l'Europe, comment expliquer ces chiffres, sinon, notamment et largement, par la conduite de la population elle-même? On a beaucoup insisté depuis quelques décennies sur la délation, sur le collaborationnisme et l'antisémitisme en vigueur dans la société française de cette époque. Eh bien, pour une fois, c'est tout le reste que cet ouvrage met en avant. La solidarité, l'entraide, le dévouement envers les persécutés dont ont fait preuve des milliers et des milliers de Français non-juifs qui ont rendu possible la survie d'au moins 200 000 personnes en péril de mort. Le mur des justes, inauguré il y a 7 ans au mémorial de la Shoah, j'ai envie de dire d'ailleurs réinauguré, mais enfin n'entrons pas dans ces détails, à Paris donc, ce mur des justes met à l'honneur les noms d'environ 3500 Français non-juifs qui, pendant les années noires, ont mis leur vie en danger pour sauver celle de juifs traqués par les autorités. Ces 3500 personnes ne représentent en vérité qu'une faible partie de toutes celles dont les gestes plus ou moins héroïques sont largement restés dans l'ombre. Jacques Semelin, en retraçant les trajectoires de 17 témoins principaux, individus ou familles, françaises ou étrangers d'origine sociale très variée, nous nous permet d'appréhender enfin ces réalités oubliées et pose des questions essentielles à propos des Juifs de France entre 1935 et 1939 pardon, et 1945. Comment les uns et les autres ont-ils réagi à la défaite de la France et à l'occupation? Comment ont-ils pu survivre aux premières mesures antisémites? Ont-ils quitté leur domicile pour aller de lieu en lieu? En quoi les conduites de Juifs français et étrangers ont-ils été différentes? Ont-elles été différentes? Comment ces personnes ont-elles réagi au moment où fut imposé le port de l'étoile jaune? Et lors des arrestations de masse, ont-ils cherché à mettre leurs enfants à l'abri? Et où? Comment continuer aussi, nous demande Jacques Semelin, comment continuer à vivre normalement en redoutant à chaque instant d'être arrêté? Eh bien, ce sont les réponses à ces questions et à quelques autres qui vont faire la matière de cette émission où la voix de Jacques Semelin va, vous allez le voir, se mêler à celle des grands témoins de la période.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Sur Europe 1, de la musique du film de François Truffaut, sorti en 80, Le Dernier Métro, Franck, avec notamment Catherine Deneuve et Gérard Depardieu.
Eh oui, bonjour Jacques Semelin, merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour.
Le titre, ou plutôt le sous-titre de votre ouvrage, en gros caractères hein, sur la couverture, révèle ce chiffre que les Français ne connaissent pas ou pas assez. Comment, dites-vous, comment 75% des Juifs en France ont échappé à la mort? C'est-à-dire 3 Juifs sur 4 hein, parmi ceux qui se trouvaient sur le territoire national.
Oui, c'est ça. Alors ce chiffre, il est connu des spécialistes. Mm-hmm. Et Serge Klarsfeld l'a toujours cité. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, mon travail est un peu dans le sillage de Serge Klarsfeld. Mais en fait, il n'est pas connu du tout du grand public. J'en ai fait vraiment beaucoup de l'expérience. Et ce qui est aussi assez incroyable, c'est que en fait, on pense que les Juifs qui ont survécu, ils sont revenus de déportation. Mmh. Et quand vous dites à votre interlocuteur, non,
ils étaient là.
Voilà, ils n'ont pas été déportés. Et alors à ce moment-là, c'est une grande découverte. Ah bon ?
Ah bon ? Donc, mais je vous avoue que moi, je savais cela parce que, ayant justement fait beaucoup d'histoires orales en son temps pour le ministère de la Défense, j'avais eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de ces réfugiés, de ces personnes qui avaient pu être sauvées. Mais je n'avais pas du tout conscience de l'importance du phénomène. C'est-à-dire que là, vous nous mettez sous les yeux un chiffre tout à fait extraordinaire. Alors tout à l'heure, vers la fin de l'émission, nous évoquerons les raisons de cette spécificité française, en fait, hein, de cette particularité par rapport à d'autres pays d'Europe où les Juifs ont été beaucoup plus massivement arrêtés et déportés. Ce que j'aimerais que nous fassions, évidemment, comme vous le faites vous-même dans ce livre qui est vraiment très passionnant, comme tous les livres de témoignages, vous avez synthétisé et thématisé les témoignages de sorte qu'on suit tout le processus, en quelque sorte.
J'ai voulu suivre des parcours d'individus et de familles, comme vous l'avez dit, durant toute la guerre, hein, même avant la guerre, puisqu'il faut quand même que je sache un peu d'où ils viennent. Et je les suis jusqu'à à la fin de la guerre, mais en même temps, attention, c'est pas une histoire rose du sauvetage des Juifs de France, parce que ces familles-là, elles vont perdre des membres de leur famille, ou ces individus, ils vont perdre des amis, le père, donc je prends toujours en compte les 25% de morts, si vous voulez. Mon livre, jusqu'à la dernière page, la mort y est présente, mais en même temps, la vie. Donc en gros,
la mort et la peur, et
voilà,
etc.
La mort, la peur, la vie, la chance, vous voyez. Et donc, en réalité, mon livre porte sur la vie de ces personnes qui sont persécutées. Et j'essaye de montrer comment elles vivent, comment elles vont faire en sorte pour échapper à la persécution et aux arrestations.
En faisant justement référence à des chiffres établis par Serge Klarsfeld, vous nous dites qu'en 1940, hein, au moment de l'invasion allemande, il y a environ, pour autant qu'on puisse exactement dire, mais il y aurait 330 000 juifs en France.
C'est ça.
Quand on dit 330 000 juifs, c'est-à-dire des Français, bien entendu, en forte majorité, mais aussi des étrangers qui eux-mêmes étaient déjà réfugiés.
Alors, vous soulevez un point très important, c'est-à-dire que pour expliquer déjà, entre guillemets, ce qui va se passer pour ces personnes, il faut prendre en compte la nationalité. Voilà, français ou étranger. Et je dois dire que même en ayant une très bonne connaissance de la période, parce que j'ai déjà écrit sur ces questions, je ne savais pas que 9 Français juifs sur 10 avaient survécu en France. J'ai refait les calculs à partir des chiffres de Serge Klarsfeld pour m'en convaincre. Je ne savais pas non plus qu'environ 6 juifs étrangers sur 10 ont survécu, ce qui est un chiffre beaucoup plus faible, bien entendu, mais quand même beaucoup plus important que dans les pays avoisinants. Alors, cette question de la nationalité, elle est fondamentale. Les Français, bah, ils parlent français, ils sont mieux intégrés dans la société française.
Oui, ils font déjà partie de la société.
Voilà,
ça, hein,
ils vont avoir des ressources sociales.
Ils sont connus dans leur quartier, etc.
Voilà. Ils ont aussi des gens qu'ils connaissent en province, vous voyez, voire dans la zone libre, parce qu'on va peut-être en parler. Ils partent en zone libre beaucoup. Mais les pauvres juifs étrangers qui sont arrivés de fraîche date, ils parlent pas bien le français, ils n'ont pas beaucoup de ressources non plus. Et donc, ça va être une cible, évidemment, principale pour les nazis et pour Vichy.
Eh oui. Alors justement, quel a été le rôle de cette coupure de la France en deux zones, hein, une zone occupée, une zone libre? Comment, nous allons venir à tout ça dans un instant, où se sont réfugiés ceux qui ont pu quitter la France? Comment est-ce que ça s'est passé? Et puis, comment vivaient quotidiennement tous ceux qui sont restés? C'est ce que nous voyons avec vous, Jacques Semelin, dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur des heures sombres de l'occupation sur Europe 1 pour évoquer le quotidien de tous ces Juifs de France qui ont survécu aux événements, Franck.
Et oui, on peut même dire ces Juifs en France, hein, puisqu'il y avait des personnes de nationalité française et bien sûr des étrangers. Et nous avons déjà vu avec Jacques Semelin que les Français, dans cette affaire, ont été mieux protégés que les étrangers, ce qui est assez naturel quand on sait à quel point tout ça dépendait beaucoup de la connaissance de chacun, des circonstances, on va dire de la complicité des villages, des quartiers. Alors justement, la plupart des arrestations ont lieu en milieu urbain. Donc une des premières choses à faire pour essayer d'échapper à l'occupant, c'est de fuir à la campagne, Jacques Semelin.
Oui, précisons quand même que les Juifs français, il y en a quand même qui ont été pris. Hein.
Bien sûr.
Mais effectivement, dès le début de la guerre...
On a 80 000 personnes en tout, donc
voilà,
11 000 enfants.
Voilà,
hein.
Voilà. Dès le début de la guerre, il y a un mouvement pour aller vers la zone dite libre, donc la France de Vichy, et de plus en plus vers la campagne. Donc c'est par là qu'ils vont échapper de plus en plus à la traque. J'y pensais ces derniers temps, il y a le camp de concentration, hein, on concentre les ghettos, eh bien mon livre commence par la dispersion,
c'est
l'inverse. Et alors ils vont aller dans les grandes villes, dans les petites villes, et ils vont se retrouver dans des petits villages, des petites communes, et beaucoup vont se retrouver dans les zones rurales. Donc ça, c'est un mouvement très important.
Évidemment, plus on est libre d'attache, notamment familiale, plus on est jeune et alerte, plus on est vigilant et attentif à tout ce qui peut se passer autour, et évidemment, plus on a de chances de s'en sortir. Ce qui veut dire que les personnes âgées, notamment, sont des victimes plus désignées.
Malheureusement, oui. C'est-à-dire que les études montrent que entre 15 et 30 ans, ben voilà, on a plus de liberté, de mobilité. On n'est pas forcément en charge de famille, mais les personnes âgées sont la cible, disons, un peu plus exposée parce qu'elles n'ont pas de mobilité. Et par exemple, puisque vous avez dit qu'on allait avoir le témoignage de Robert Badinter, si ma mémoire est bonne, eh bien, sa grand-mère, malheureusement, a été arrêtée par la milice à Paris en 1943. Elle était quasiment grabataire. Et bien, quand même, elle a été déportée.
Il va nous raconter tout ça dans un instant. Alors, on choisit, évidemment, pour se réfugier, des lieux les plus difficiles, les plus inaccessibles possibles, en quelque sorte. Mais alors, il y a là un paradoxe, et que vous éclaircissez remarquablement dans votre livre. C'est l'attitude d'une population qui n'est pas habituée à recevoir des réfugiés pour cause. Hein. On arrive dans des villages qui d'habitude vivaient dans une sorte d'autarcie depuis des siècles.
Voilà. Déjà, il y a l'adaptation à la campagne.
Voilà,
et
oui.
Ces Juifs, ils sont quand même pas très doués pour les travaux des champs. Donc, il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas. Mais en même temps, les paysans, ils ont jamais trop vu de Juifs.
Mais voilà,
ils savent pas comment ils sont. Et voyez, j'ai pensé par exemple à Henri Steiner dont je parle dans le livre. Oui. Il est ouvrier agricole, juif allemand. Bon, il se retrouve dans un petit une petite commune de Cabanel dans le Tarn. Et, oui. Et puis il sympathise avec son patron qui est un agriculteur. Et l'agriculteur, il a entendu un peu parler de la propagande antisémite. Et puis il dit, mais bon, toi qui as été à la ville, ils discutent ensemble, toi qui as été à la ville, toi qui connais les choses, est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'un juif? Et alors bon, il essaye d'expliquer, puis dit Henri Steiner dit, mais un juif c'est moi. Ah bon, toi? Mais c'est pas possible, t'es pas juif, toi! Parce qu'ils se représentent, les juifs, avec des
archétypes, évidemment, oui.
Des extrémités crochues, une petite queue, etc. Donc, vous voyez, ce sont les clichés qu'on
bien
peut
sûr,
avoir.
Bien sûr.
Et voilà, ça, en fait, ces paysans, ils voient ceux qui arrivent comme des réfugiés, des gens qui sont perdus dans la guerre.
Alors, tous ceux qui, au quotidien, ont aidé ces juifs n'ont évidemment pas obtenu la reconnaissance d'être déclarés justes parmi les nations, hein, loin de là. Je cite par exemple ce que nous dit Marie-Thérèse, qui vient de nous envoyer un message. Pendant la guerre, au sein d'une association, ma mère, alors âgée de 17 ans, allait à la sortie des écoles chercher les enfants juifs et s'occuper d'eux, tandis qu'une autre personne allait vite vérifier si les parents n'avaient pas été arrêtés en cours de journée et si les enfants pouvaient rentrer chez eux en toute sécurité.
Alors là, j'en ai pas des dizaines d'histoires comme ça, mais j'en ai des centaines.
Mais oui,
ai des centaines. Un exemple parmi 36 autres. Pas à la campagne, dans le nord de la France, un instituteur qui voit arriver en juin 42 un gamin de sa classe, un élève, avec son étoile jaune. Il le prend à la récréation, il lui dit « Mon petit gars, tu dis à tes parents de foutre le camp en zone libre. » On est en juin 42. Des émigrés polonais, l'instituteur, ça compte. Ils le suivent. Ils vont partir en zone libre, ils vont se retrouver, histoire classique, je crois, dans les Pyrénées, ils vont être accueillis par une famille d'agriculteurs, et puis ils vont demander pour ces personnes le titre de juif. Ça a marché. Mais cet instituteur qui a parlé 30 secondes à ce gamin, vous ne croyez pas qu'il a joué un rôle fondamental? Mais c'est ce que j'appelle un petit geste. Voilà.
Et ces petits gestes, on peut dire que votre ouvrage en est littéralement tissé.
Voilà.
Nous allons entendre le témoignage au micro de Diane Chenouda, c'était en janvier 2007, le témoignage du juste Roger Belbéoc, qui était lui-même policier pendant l'occupation et qui a fait un beau travail, vous allez voir.
J'ai commencé à faire des faux papiers. J'avais la responsabilité du registre des Juifs à résidence surveillée. J'ai commencé par eux. Chaque jour, ils devaient venir au commissariat pour signer le registre. S'ils ne venaient pas, il fallait que je les dénonce. Et puis, ils étaient arrêtés et déportés, etc. Je leur donnais 15 jours de délai pour trouver un moyen de se cacher ou de s'enfuir, etc. Et je signais le registre à leur place. S'ils n'avaient pas ce qu'il fallait, j'essayais de leur donner des faux papiers, des fausses cartes, etc. En plus, j'avais la responsabilité du courrier, c'est-à-dire que les lettres anonymes de dénonciation, c'en était écœurant. Je les déchirais et j'allais prévenir les gens qui étaient dénoncés dans la lettre. Je me considérais pas comme un héros. J'étais là pour sauver des gens et c'est tout, et pour faire de la résistance.
Voilà une des figures de l'entraide dont vous parlez.
Alors il vient de dire résistance. Moi, tous ces petits gestes de Français, ça ne fait pas pour moi des héros de la résistance. On n'est pas résistance, etc. Ce sont des gestes dans le quotidien qui sont manifestés par des Français envers non seulement les réfugiés juifs, mais aussi les réfractaires du service du travail obligatoire. Vous savez, tous ces jeunes qui devaient partir en Allemagne ou les résistants en cavale. Et attention, il y a ça, mais bien sûr, il y a la délation de certains, minoritaires, mais elle existe. Il y a aussi des personnes qui restent indifférents au sort des Juifs.
Bien
donc
sûr,
le tableau que je dresse, il n'est pas encore
un tableau idyllique,
il n'est pas rose.
Non, évidemment,
voilà.
Évidemment.
C'est une France. La situation de la France à l'époque, elle n'est pas rose, elle est grise, elle est tragique. Et en même temps, il y a ces gestes de soutien de la population.
Persécution et entraide dans la France occupée, c'est l'ouvrage de Jacques Semelin aux Arènes et au Seuil.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec une émission consacrée aux Juifs en France sous l'occupation et Robert Badinter est maintenant en direct avec nous sur Europe 1.
Et oui Julia, nous avons la chance d'avoir en ligne le grand pénaliste Robert Badinter qui a été garde des Sceaux et président du Conseil constitutionnel. Bonjour Robert Badinter.
Bonjour.
Merci beaucoup de témoigner car c'est un témoignage que nous attendons de vous aujourd'hui. Vous avez fait partie de ces tout jeunes gens qui ont été sauvés, qui ont été protégés vous-même.
Oui, ceci remonte évidemment à la période de l'occupation. À ce moment-là, quand l'occupation commence, j'ai 12 ans, et quand elle s'achèvera, j'en aurai 16.
Oui.
Après l'arrestation de mon père par Barbie à Lyon, alors de la rue Sainte-Catherine, la famille s'est dispersée.
On est en 1943, là, à ce moment-là.
En 1943, oui. C'est très exactement le 9 février 1943. Mon frère est allé dans l'Isère, ma mère est restée dans la région lyonnaise, et moi, je suis allé en Savoie. Et là, nous sommes établis, regroupés dans un, ce qui était à l'époque un village, qui est maintenant un bourg, à côté de Chambéry, qui s'appelle Cognin.
Cognin.
Et j'ai toujours dit, rappelé aux habitants de Cognin, à chaque fois que j'en ai eu l'occasion, que je considère que si nous avons pu survivre, nous le devons à ce village et à ses habitants. Une espèce de réseau de silence, de complicité, d'amitié aussi, qui s'est tissé pendant cette époque. C'est la dernière partie de l'occupation. La chasse aux Juifs était plus intense que jamais. Cela se situe entre le moment où les Italiens demandent l'armistice et le moment où Chambéry est libéré, c'est-à-dire de juillet 43 à août 44, période très cruel, très brutal, avec un maquis, un niveau de résistance très élevé en Savoie, et parallèlement une activité de la milice féroce menée par Touvier.
On imagine que votre quotidien, c'était la peur. Vous ressentiez cette peur au quotidien ?
C'était, vous savez, d'abord, vous mesurez ce que sont les adolescents. La vie, Dieu merci, est la plus forte. Toutes les précautions, on les prenait assez dérisoires quand j'y pense. Musette prête, chaussures toujours près de la fenêtre entrouverte de façon qu'on puisse sauter par derrière la maison que nous occupions et passer par le jardin et nous enfuir. Mais encore une fois, ça me paraît aujourd'hui dérisoire. Mais ce qui demeure et qui est là très vif, c'est, j'évoquais ce réseau d'amitié. Tout le monde nous appelait par nos prénoms, mon frère et moi, j'allais au lycée, les copains venaient me chercher, nous descendions à vélo vers le lycée, et c'était « Salut Bernard, c'était mon copain, salut Robert ». Nous logions chez une vieille fille très pieuse, très catholique, elle savait parfaitement à quoi s'en tenir, et là le silence jouait, vous comprenez, jouait. Il suffisait d'un mot, d'une parole. Les dénonciations étaient hélas fréquentes. Je le rappelle, la milice toute proche, la Gestapo très présente à Chambéry. Un mot de trop, une confidence, tiens, qu'est-ce qu'ils font là? C'est une illusion.
Ça aurait pu évidemment mal tourner. Oui.
Comment?
Et ça aurait pu immédiatement mal tourner.
Oui, évidemment. Qu'est-ce que font là trois personnes? Ma mère ne recevait jamais de courrier. Aucune personne ne venait nous visiter. Il était évident que c'était des Juifs qui se cachaient. Il avait besoin d'avoir une longue expérience pour le mesurer. Et qu'à partir de là, nous avions des faux papiers.
Alors justement,
il aurait suffi mot, d'une confidence, sinon d'une dénonciation.
Vous aviez des faux papiers et évidemment une fausse identité, j'imagine.
Non, pas une fausse identité, des faux papiers.
Seulement,
en ce sens que nous avions conservé le nom que je porte, mais nous étions nés à Saint-Nazaire. Toute la famille était devenue bretonne. Devenue bretonne parce qu'à Saint-Nazaire, à la suite des bombardements, les registres d'état civil avaient disparu. Et par conséquent, on s'était fait fabriquer des faux papiers avec nos noms, mais tout le reste avait été changé, le nom de jeune fille de ma mère aussi, parce qu'il était trop à consonance juive. Voilà, c'était des vrais faux papiers, si vous voulez, délivrés d'ailleurs à Lyon par des policiers résistants que ma mère nous avait amenés, avec lesquels nous avons traversé cette dernière année.
J'imagine que vous comprenez très bien ce dont parle Jacques Semelin lorsqu'il évoque les petits gestes et toute l'entraide au quotidien qui n'a rien à voir forcément avec de grands actes d'héroïsme qui peuvent justifier la reconnaissance comme juste.
Oui, c'est la vie quotidienne. C'est l'évoquait il y a un instant. La vie quotidienne qui faisait qui commandait que rien ne puisse être considéré par les autres comme entraînant un soupçon à notre égard. Personne jamais n'élevait la moindre question sur « Mais où étiez-vous avant ?»« Vous êtes né où ?» à Saint-Nazaire, puis ça s'arrêtait là. Vite, on changeait de sujet. Personne très aimable, le père Charette qui nous avait logés, avait dit à ma mère « Bon, ben, moi, j'ai pas besoin de vous demander une caution bancaire, je vous fais confiance. » Il avait fixé un prix très bas, parce qu'il ne voulait justement pas nous placer dans l'embarras, mais il savait très bien à quoi s'en tenir.
On sent de la reconnaissance hein, dans vos propos.
Oui, c'est une reconnaissance très profonde. Et dans mon cas, j'ai tenu d'ailleurs à la témoigner à un moment très précis. C'était au moment du procès Touvier. À ce moment-là, je présidais le Conseil constitutionnel et je voyais bien que dans la presse, à force de parler de Touvier, de ses crimes, des crimes de la milice, on avait l'impression qu'en Savoie, il y avait un puissant mouvement collaborationniste. Et nous, alors que c'était exactement le contraire. Et j'ai téléphoné au maire de Cognat, je lui ai dit, voilà, c'est mon nom, oui, je sais, et je voudrais venir parce que j'aurais voulu initier les enfants des écoles pour leur dire que leurs parents et leurs grands-parents étaient des gens bien. Vous savez, c'est très important pour des enfants de savoir que leurs parents sont des gens bien. Et il y avait toutes les raisons de ma part de venir. J'étais le dernier survivant de la famille, j'ai acheté une magnifique déclaration des droits de l'homme d'époque révolutionnaire au Palais Royal, là où était le Conseil, parti un beau matin à Chambéry, et de Chambéry nous avons gagné Cognat, et là les enfants des écoles étaient là, je leur ai raconté ce qu'était la vie sous l'occupation, pourquoi leurs parents nous avaient protégés, comment ce réseau de silence, de complicité, d'amitié aussi avait tant aidé. Et il y avait là quelques-uns des anciens, et parmi les anciens, j'ai retrouvé des amis avec lesquels j'avais été au lycée à cette lointaine époque, et on a fait un grand dîner républicain le soir à la Fraîche. C'était magnifique au mois de juin, vraiment magnifique, une fête d'amitié et de reconnaissance. Et je suis revenu ensuite quelquefois dans ce village. Il y a d'ailleurs la maison où nous étions a été rachetée par le Conseil général, porte mon nom et ce qui...
C'est la maison Badinter maintenant.
Oui. On a dit que là, ça aurait été caché pendant la guerre, etc. Ça sert maintenant de maison d'accueil pour des vieilles personnes. Et je dois dire que à chaque fois que je vais là, ça m'émeut, je revois le passé et je garde cette même reconnaissance pour la population de Cognat et je dirais plus généralement pour la Savoie.
Merci infiniment Robert Badinter de ce très beau témoignage qui illustre parfaitement ce dont nous parlions avec Jacques Semelin.
C'est la moindre des choses et une marque de reconnaissance pour toujours.
Merci beaucoup.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Extrait sur Europe 1 de la musique du film de Joseph Losey, Monsieur Klein avec Alain Delon.
Et le cinéma français nous a offert un certain nombre de beaux films sur ces questions, mais en mettant peut-être trop rarement l'accent sur ce que vous évoquez, Jacques Semelin, sur cette solidarité à tous les étages, si je puis dire, et qui compense un peu tous les autres actes de malveillance qui ont pu exister. On a évoqué plusieurs fois avec... C'était très beau d'abord, ce témoignage de Robert Badinter, très émouvant. On a évoqué à plusieurs fois le terme « caché ». Finalement, il faut bien comprendre que ces personnes, tous ces juifs qui étaient en train d'essayer d'échapper à la police, que ce soit la police d'occupation ou celle du régime de Vichy, ils n'étaient pas cachés, en tout cas tous n'étaient pas cachés au sens d'Anne Frank, par exemple.
C'est ça. Hein. Tout à fait. Certains l'ont été. J'ai l'histoire d'Albert Grimbert, un coiffeur juif de la rue des Écoles. Bon, il va rester 2 ans dans une chambre de bonne jusqu'à la libération.
Alors là, on est dans la claustration et on disparaît carrément.
Oui, mais c'est très très
comme
rare.
Comme par hasard dans la capitale. Hein.
Oui, comme par hasard dans la capitale. Et en fait, les Français peuvent avoir l'idée que les Juifs devaient se cacher comme Anne Frank. Non, le témoignage de Robert Badinter est très intéressant. Ils se fondent dans la population. C'est le terme, que se fondre dans la population. Il a des faux papiers. Souvent, ils ont des faux papiers et des vrais faux papiers. Enfin bon, il y a un mélange des deux dans ces années 42-44. Et donc, il va au lycée. Il passe sous les fenêtres de Touvier.
Bien sûr.
Touvier, il est dans le coin et il va au lycée en vélo avec son frère.
On a l'impression que la vie continue quelque part, y compris avec ses aspects parfois burlesques ou drôles aussi. Hein. Ça fait partie du...
Je raconte beaucoup d'histoires comme ça. C'est une vie tragique. Il vit dans la peur, dans l'insécurité. Mais en même temps, il va à l'école, au lycée, comme il a dit. Les enfants, ils vont aussi à l'école primaire. Et pour les ados, ils peuvent aussi avoir des petites histoires d'amour, malgré tout. Et je me suis permis de raconter quelques histoires comme ça. C'est-à-dire que c'est la vie, la mort, la peur, mais aussi la vie continue. Et c'est ce climat que j'ai essayé de raconter à travers beaucoup d'histoires pour faire comprendre la tension, la persécution et l'entraide. Voilà, ce sont les deux thèmes clés, la persécution et l'entraide.
On a entendu tout à l'heure le témoignage de ce policier qui aidait. Alors lui, il était bien placé, évidemment, pour aider les familles juives inquiétées. Nous avons entendu le témoignage de Robert Badinter qui parlait justement de tous ces gens qui ont été... il faudrait dire un mot des faussaires, puisqu'il a parlé de ces faux papiers, donc qui ont joué un rôle essentiel. Il y a les passeurs aussi qui permettent de temps en temps, quand on est près d'une frontière, de s'échapper ou de franchir la ligne de démarcation.
Il y a quatre figures de l'entraide qui ressortent de tous ces témoignages. D'abord, l'ange gardien, le gendarme qui, la veille, va prévenir la famille qui doit l'arrêter le lendemain.
Ça, c'est fondamental.
Il ne va pas le laisser dans le rapport de gendarmerie du... tout le monde ne fait pas ça, mais M. Belboche, il est un peu dans ce milieu-là. L'hôtesse, très important, l'accueil, deux jours, trois jours, plus. Bon. Et puis, vous venez de le signaler, le
faussaire. Quand vous dites plus, ça peut être beaucoup plus.
Beaucoup plus, mais on fait un échange. C'est-à-dire qu'ils essayent d'aider aux travaux des champs. S'ils ne savent pas faire ça, il y en a qui sont ailleurs. La dame fait de la coiffure. Donc, ils vont se faire payer en poulet. Vous voyez, donc, il y a du troc. Toute la période, c'est le troc. Il y a le marché noir, bien sûr. Et puis, le passeur. Alors, le passeur, c'est celui qu'on aime le moins. Le passeur, on a toujours peur de se faire avoir par le passeur. Voilà. Donc,
avoir à tous les points de vue.
Oui, exactement. Et le passeur, souvent, il n'a pas de nom. Les autres, ils ont des noms, sauf le gendarme, il reste 5 ans. Donc, vous voyez, c'est ces personnages, c'est une sorte de... Cette période, je parle des années 42-44, c'est une période où tous les gens sont doubles. Ils jouent un double jeu. Ils ont des faux papiers, des vrais faux papiers, etc. Et parmi... C'est une sorte de théâtre, c'est une comédie tragique. D'accord, mais il y a quatre figures qui ressortent, c'est celle que je viens de vous dire.
Et n'oublions jamais le temps qui passe. Parce qu'évidemment, on a tendance à posteriori à imaginer cette période de l'occupation. Dans notre esprit, ça dure 3 mois et demi. En réalité, ce sont quand même 4 années pleines au bas mot.
Tout à fait.
Et donc, il y a une évolution. Vous pouvez avoir des personnes qui ont une certaine attitude en 1940 et qui en ont une autre en 43, voire en 44, etc. Tout ça. Il y a l'usure du temps aussi.
Absolument.
Hein,
et puis, des sentiments qui sont là. Je voudrais insister sur le patriotisme, voyez, parce que en fait, on s'aperçoit à travers beaucoup de témoignages que ces personnes, en fait, elles n'aident pas les Juifs parce qu'elles sont juives, parce qu'elles sont réfugiées, elles sont perdues dans la guerre, et puis on veut faire quelque chose contre les Allemands. Et alors, ça provoque des situations paradoxales. Vous voyez, par exemple, un monsieur d'extrême droite, le père de Raoul Girardet, qui a été professeur à Sciences Po.
Oui, bien sûr. Oui.
Bon. Eh bien, il rentre à Paris à l'automne 1940, il voit sa concierge, et puis il lui dit « Ah, madame, c'est tragique. La France est occupée. C'est absolument horrible. » Et en plus... Il va falloir aider les Youpins pour emmerder les Boches. Oui. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a ces petits gestes...
C'est infiniment plus complexe que ce qu'on peut penser.
Voilà,
évidemment.
Ces petits gestes, ça vient du fond du... On veut faire quelque chose contre ça. Et les paysans, pour revenir aux paysans, ce sont des gens qui ont fait la guerre de 14. Ils sont pétainistes, mais ça n'empêche pas d'accueillir des réfugiés. Et vous avez un film qui est extraordinaire pour ça. C'est le film Le vieil homme et l'enfant de Michel Simon, qui est extraordinaire. Et vous avez Claude Berry, c'est son histoire. Et bien, il est accueilli par cette famille. Il leur a rendu hommage. Alors, évidemment, le papy pétainiste, antisémite, il ne sait pas qu'il est juif, mais on s'en fout.
Il
y a une amitié qui se crée entre eux, et je trouve que ce film, il est assez représentatif de la période.
Alors, vous avez employé plusieurs fois ce mot pétainiste. On est évidemment dans un régime, là encore, qui lui aussi est double ou triple. Évidemment, on ne va pas revenir sur les lois de Vichy contre les Juifs. Le régime était clairement antisémite, etc. Oui. Il ne s'agit pas du tout de mettre ça en doute un instant.
Non, pas du tout.
Simplement, on peut dire que déjà, la création de la zone libre a joué un rôle important. Ça, c'est incontestable. Ça, c'est l'armistice de 40.
Alors, l'armistice de 40 a créé la zone libre, le maintien d'un État français, je ne dis pas de Vichy, le maintien d'un État français, c'est-à-dire qu'avec un territoire autonome qui constitue la zone libre, a été, non seulement pour les Juifs, mais pour les Français en général, un espace où ils ont pu se réfugier. Ce n'était pas les Allemands.
Voilà.
Voilà. Vous avez un, le récit.
C'est pas directement l'occupant. Quoi,
c'est voilà. Pas le. C'est, voilà. On est. Vous avez un récit extraordinaire. Léon Werth, un écrivain qui fuit vers le Jura, mais dans la partie libre du Jura. Et quand il arrive, on est en juillet 40, après la débâcle, il dit enfin la France. Oui. Et ça reste dans l'imaginaire. Et les pauvres juifs. Du quartier Saint-Paul, par exemple, ou qui sont dans une misère pas possible, nous savons par des témoignages, en particulier le journaliste Jacques Bielinki, qui rêvent d'aller en zone libre. Ils peuvent pas, ils ont pas les moyens. Il faut vraiment
ça
toujours
coûte
garder.
Cher en plus, évidemment.
Comment ?
Et ça coûte cher.
Et ça coûte cher. Ils connaissent personne.
Oui.
Donc ils sont pris dans la. Si vous voulez, ils sont pris. C'est là où justement, c'est par là où va se passer la rave du Veldiv, entre autres, dans ces quartiers miséreux de Paris. Ceux-là, ils ne vont pas avoir eu la possibilité de partir en zone libre. Donc le fait qu'il y ait eu quand même une zone libre entre guillemets. Hein, eh bien, ça a contribué...
Jusqu'en novembre 42, en tout cas. Hein.
Oui, mais même après, le statut est différent. Mm-hmm. Une chose que les Français ne savent pas, l'étoile jaune n'a jamais été instaurée en zone libre, et pas plus quand la Wehrmacht a occupé
Même après novembre 42.
Absolument pas. Il y a un J sur le papier d'identité qui apparaît en décembre 42, c'est obligatoire, mais vous avouerez qu'avoir un J sur la carte d'identité, c'est pas la même chose que d'avoir une étoile sur son
revers
de sa veste. Or, pourquoi ? C'est parce que l'instauration de l'étoile jaune, c'est une ordonnance allemande.
Voilà.
De mai 1942. Et donc, on a un texte très précis de l'amiral Darlan, en janvier 42, qui dit « Attendez, c'est pas possible. Vous voulez qu'on mette l'étoile jaune en zone libre ? Les Français ne vont pas comprendre. » Donc, si vous voulez, il y a un imaginaire. Alors, évidemment, attention, les Juifs, ils vont se faire arrêter. Il faut pas oublier la rave d'août 42, où il y en a 10 000 qui ont été pris par Vichy. C'est la responsabilité de Vichy. Mais la situation de la vie en zone libre, enfin en zone sud et en zone nord, sera toujours différente.
Nous avons dans un instant en ligne Denis Lindon. C'est un de vos grands témoins et oui. Lui-même va nous raconter sa propre histoire.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec une émission consacrée jusqu'à 14h sur Europe 1 aux Juifs en France sous l'occupation.
Et oui, nous avons en ligne M. Denis Lindon, qui lui-même a fait partie de ces personnes qui ont été protégées, qui se sont réfugiées. Bonjour Denis Lindon. Merci beaucoup d'accepter de témoigner au micro d'Europe 1. Qu'est-ce qu'il vous est arrivé à vous ? Vous étiez, c'est en 1943 que vous avez commencé à vous réfugier ?
Non, c'était déjà à partir de 40, nous avions quitté Paris et nous nous étions installés à Aix-en-Provence,
oui.
Qui était dans la zone libre dont vous avez parlé tout à l'heure. Et jusqu'au moment où la zone libre a été à son tour envahie par les Allemands, c'est-à-dire enfin
novembre 42, 40, oui.
42, c'est ça. J'étais au lycée d'Aix-en-Provence à ce moment-là, je préparais mon premier bac, et ce qui fait que mon père n'a pas voulu partir tout de suite, parce qu'on avait le bac qui s'annonçait pour le mois de juin, et puis finalement, il a compris que c'était trop dangereux de rester là, et donc seulement en février ou mars 1943, que nous avons quitté Aix-en-Provence pour aller nous réfugier en Auvergne.
Pourquoi en Auvergne ?
Alors en Auvergne parce que nous connaissions l'existence d'une femme qui s'appelait Marie Pouzadou et qui habitait un tout petit village d'Auvergne et dont la mère avait été une nourrice
et voilà.
Chez ma grand-mère pour l'un de mes oncles lorsqu'il était né, c'est-à-dire en 1903.
Les fameuses nourrices auvergnates à l'époque, c'était tout à fait habituel.
Souvent, les femmes des milieux bourgeois de Paris faisaient venir une nounou, une nourrice, pour allaiter leur nouveau-né. Et donc, ma grand-mère avait fait venir une femme d'un petit village d'Auvergne qui était restée pendant 2 ou 3 ans chez elle, parce qu'à cette époque-là, on allaitait les bébés pendant très longtemps. Elle était donc restée 2 ou 3 ans chez elle, et ensuite, elle avait gardé des relations à Noël. Ma grand-mère lui envoyait un petit chèque, un petit mot, etc. Ce qui fait que la famille de cette nounou, sa fille même, pour être plus précis, avait été élevée dans le culte de la famille Lindon. On lui disait toujours, tu vois, la ferme, on a réussi à la reconstruire ou à refaire la toiture à cause noces de Madame Ladon qui nous envoie un petit chèque tous les Noëls. Et alors, en 1943, mon père, qui ne savait pas où aller, s'est dit, on pourrait peut-être essayer d'aller chez la fille de la nounou Pouzadou. La nounou était morte depuis longtemps, mais sa fille existait toujours. Personne ne l'avait jamais vue dans la famille, mais on savait qu'elle existait. Et mon père est donc allé explorer. Il est parti.
Oui, il était en reconnaissance, en quelque sorte. Hein.
Et c'est ça. Et quand il est arrivé chez cette Madame Pouzadou, il lui a dit ma maison est à vous. Vous venez quand vous voulez avec votre famille et vous serez en sécurité ici. Ce qui fait que nous sommes tous installés pendant quelques jours chez cette nounou. Puis ensuite,
ça se trouvait où exactement? C'était quoi le
nom? Ça se trouvait pas très loin de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, tout petit village de 300 ou 400 habitants. Alors nous y sommes allés avec une fausse identité, mais en fait tout le monde savait très bien qui nous étions, parce que la dame qui nous hébergeait avait parlé de nous depuis toujours, de la famille Lindon, et ce qui fait que les 300 ou 400 habitants savaient parfaitement que nous nous appelions Lindon, et qui nous étions, et que nous étions juifs, etc. Et il ne s'en est trouvé qu'une seule personne parmi ces 300 pour essayer de nous dénoncer.
Une seule dénonciation. Et donc, vous confirmez ce que disait Robert Badinter sur le silence général, en fait. Hein.
Oui, enfin, cette dénonciation, c'était une jeune fille qui avait travaillé comme femme de ménage pendant quelques semaines chez nous, et puis qui s'était brouillée avec ma mère, et qui a écrit une lettre à la Gestapo, ou à la milice plutôt, à la milice à Clermont-Ferrand. Elle a mis la lettre à la poste, et le receveur des postes, quand il a trié le courrier le soir, il a vu une lettre adressée à la milice. Et alors il a violé le secret professionnel, il a ouvert la lettre, et il a vu que c'était une dénonciation. Alors ouais, du coup, il a détruit la lettre, il a fait venir la jeune fille en question, et il lui a dit j'ai découvert ce que tu avais fait, si jamais tu recommences, après la guerre, tu auras des gros ennuis.
Et c'est encore un acte de solidarité. Là.
Ce receveur n'a pas non plus été nommé juge,
mais non, évidemment.
Mais il aurait pu l'être, parce qu'il nous avait sauvé la vie.
Est-ce que vous avez encore des liens avec ce village, avec cette famille?
Beaucoup. Bah oui, je vais les voir, non pas ceux qui nous ont recueillis, mais leurs descendants, parce que ceux qui nous ont recueillis sont morts, mais leur fille est toujours vivante, leurs petits-enfants sont là. Et non seulement moi, j'ai gardé des liens avec cette famille, mais mes enfants et mes petits-enfants ont noué des liens d'amitié avec les enfants et les petits-enfants de la dame qui nous avait recueillis. Et c'est une espèce d'amitié entre deux familles très différentes au départ, et qui maintenant dure depuis plus d'un siècle.
C'est tout simplement magnifique. Merci beaucoup, Denis Lindon. Vous voyez que j'ai la gorge un peu serrée moi-même. Nous allons néanmoins finir l'émission, Jacques Semelin. Oui. C'est magnifique, évidemment, tous ces petits...
C'est magnifique, et puis les deux témoignages se recoupent, puisque c'est la question du silence. Vous voyez, beaucoup d'historiens ont parlé du silence, de l'indifférence, c'est-à-dire au moment de 40-42, de l'instauration des lois antisémites, mais il faut aussi parler...
Le silence, il allait dans l'autre sens aussi. Hein.
Voilà, il faut parler d'un autre silence, le silence de la non-dénonciation, le silence de la protection, pas vu, pas su. Et beaucoup de mes témoins, dans le livre, il y a justement le témoignage de Denis Lindon et de Robert Badinter, parlent de cela.
Ouais. On peut dire que cette spécificité française est quand même grande lorsqu'on compare les chiffres avec ce qui s'est passé. Je disais que par exemple aux Pays-Bas, 20% seulement des Juifs ont survécu chez nous, entre 75 et 90% selon qu'on parle des Juifs en général ou des nationaux français. Ouais. Donc c'est quand même, il faut rendre hommage là à la population, disons d'une façon générale, à beaucoup d'anonymes tout simplement.
Alors j'espère que mon livre va ouvrir une nouvelle période. De l'histoire, au sens où on va essayer de réfléchir un peu plus sur cette spécificité française.
Pourquoi tient-elle, d'après vous, cette spécificité?
Écoutez,
il y a beaucoup de choses à dire.
Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de facteurs. Donc on est à la fin de l'émission, je ne peux pas les évoquer. Vous parlez des Pays-Bas, il y a une concentration très importante des Juifs à Amsterdam. On a créé un ghetto et hop.
Et là, c'était évidemment...
Voilà. C'était terrible. Là, on a le phénomène de la dispersion en France, qui est très tôt, grâce notamment à la création de la zone libre.
Dans les campagnes inaccessibles, cette culture du silence.
Oui, oui, c'est ça. Des trous perdus de France dont, vous voyez, vous lui demandez où c'était.
Et puis, on aime bien aller contre l'autorité en France aussi. Il faut dire ça compte, voilà. Bien entendu.
Mais ce qui est important, c'est d'insister sur l'esprit républicain et sur la culture républicaine. Parce qu'en 4 ans, Vichy a aboli la République. Il n'a pas aboli l'esprit républicain.
Toute cette culture, bien sûr.
Voilà. Et en particulier dans les écoles. Les enfants, j'ai découvert, en faisant ce travail, à travers mes collègues, que les enfants juifs de parents étrangers pouvaient être accueillis à l'école républicaine en France. Or, il y a 2 pays en Europe qui sont comme ça, c'est le Danemark et la France. Même l'Italie, qu'on présente sympathisante vis-à-vis des Juifs, ne l'a pas fait. Donc là, il y a un travail particulier sur les rapports entre guillemets, le sauvetage en France et la République. L'esprit républicain.
Merci beaucoup. Jacques Semelin, persécution et entraide dans la France occupée. Comment 75% des Juifs en France ont échappé à la mort. C'était édité, coédité par Les Arènes et Le Seuil. Et puis, je vous cite également aux Presses universitaires de France l'ouvrage de Catherine Poujol, L'Église de France et les enfants juifs, des missions vaticanes à l'affaire Finali. C'est toute la question également du rôle de l'Église dans cette affaire. Merci beaucoup de nous avoir vraiment, alors là, on peut dire ouvert de tout nouveaux horizons sur cette histoire contemporaine qu'on croit connaître et qu'on connaît finalement si mal.